Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
BFM Business, la librairie de l'écho. Emmanuel Lechypre.
Bienvenue dans la librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Alors évidemment, pas d'émission sur les livres sans auteur, ils seront nos invités dans la première partie de l'émission et puis nous retrouverons nos critiques attitrés, Christian Chavagneux, Jean-Marc Daniel, qui vous livreront leur coup de cœur et leur coup de gueule, et puis nos chroniqueurs, Benaouda Abdelhaim, notre globetrotter, Frédéric Simotel, notre bibliothécaire. Je compte sur vous pour notre compte Twitter, notre page Facebook. On démarre tout de suite avec nos invités. Impossible pour bien mesurer les effets durables de l'épidémie de Covid-19 sur nos modes de vie, nos économies, notre façon de travailler, de ne pas tirer les leçons de l'histoire et même de la préhistoire. Et puis ces nouvelles règles du jeu social, ces nouveaux rapports au travail, forcément ils appellent de nouvelles formes d'autorité. Comment diriger? Qu'est-ce qu'être chef aujourd'hui? Réponse avec nos deux invités. Pascal Pic, bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Célèbre paléo-anthropologue, vous publiez Les chimpanzés et le télétravail aux éditions Erol. Philippe Petitfrère, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste des dynamiques de transformation dans les entreprises et vous publiez avec Patrice Huer L'autorité en question aux éditions Odile Jacob. Je commence avec vous, Pascal Pic. Vous émettez l'hypothèse que cette crise sanitaire nous précipite dans une nouvelle révolution anthropologique. D'abord, c'est quoi une révolution anthropologique ?
C'est tous les changements possibles dans la société entre les rapports des individus et aussi les rapports à l'environnement. Et en l'occurrence, toutes ces questions ont été posées. Alors le titre, soyons très clairs dès le départ, ça parle très peu des chimpanzés. Mais néanmoins, avec ces enjeux du télétravail, ou des formes de travail à distance, c'est ça que je précise, on parle de télétravail, on pense surtout du travail à domicile, mais il y avait déjà plein de formes de travail à distance qui étaient en place et qui vont se développer. Donc il y a tout un ensemble déjà que je rappelle, mais beaucoup d'inquiétudes des DRH et des managers, et donc notamment sur l'autorité, certainement on va en parler, c'est comment maintenir la cohésion des équipes,
eh ben oui,
la culture, les objectifs, etc. Bon.
On apprend bien quelque chose des chimpanzés quand même.
Mais bien sûr, parce que ce sont des sociétés de fusion-fission, des sociétés c'est dans lesquelles on fusionne pour les activités les plus importantes, d'un point de vue qualitatif, social, affectif, sexuel, partage de nourriture, intrigue politique, parce qu'ils en font. Et puis d'un autre côté, on fissionne par sous-groupe ou individuellement pour se livrer à des tâches plus prosaïques. Et ils arrivent à maintenir la cohésion du groupe avec une véritable identité. Et les vrais enjeux donc auxquels on a affaire avec les nouvelles formes de travail à distance, dont le télétravail, c'est justement comment maintenir la cohésion du groupe en ayant ces nouvelles distributions ou façons de distribuer le travail et les relations entre les individus.
Alors vous rappelez quand même un point très important qui est ce que nous on considère comme étant depuis toujours la forme de travail où en gros vous habitez votre résidence, vous prenez les transports et vous allez sur votre lieu de travail. En fait, à l'échelle de l'histoire, c'est très récent, cette dissociation entre lieu d'habitation et lieu de travail.
Oui, mais même pas à l'échelle de l'évolution, vous avez raison, à l'échelle de l'histoire. C'est-à-dire, c'est la première évolution industrielle, et Karl Marx en a très bien parlé, c'est la concentration des moyens de production. À partir de là, les personnes vont vendre leur force de travail. Ensuite, il y aura les autres métiers des entreprises jusqu'à aujourd'hui, évidemment, qui vont se déployer. Et il y a eu une séparation entre lieu de vie privée et lieu de travail. Avec la tertiarisation de la société, s'est installé donc le régime des banlieues. Alors, moi, je suis un baby boomer, donc j'ai pas joué à la marelle avec Lucie, ni à la pétanque avec Néandertal. On est bien d'accord. Mais tout de même, moi, j'ai connu une époque dans les années 60 où il y avait encore une très forte identité sur les activités des gens, leur façon de travailler, enfin, voyez les métiers. Aujourd'hui, tout le monde est devant un ordinateur, etc. Donc, vous voyez, les repères sont assez complexes par rapport à ce que j'ai connu. Mais en l'occurrence, c'est installé avec le déploiement des banlieues, la trilogie métro boulot dodo, avec une amplitude de plus en plus importante, comme je l'ai vécu pour vous rejoindre aujourd'hui, des transports et des difficultés qu'on appelle les transports pendulaires. Et c'est ça évidemment que, quand on est dans le courant, on n'y pense pas trop, on râle, etc. Et puis la crise de la Covid, comme toutes les crises dans l'évolution, ce qu'on appelle les ponctuations dans notre jargon à nous, mettent en exergue tous les problèmes et les excès. Et c'est ça qui est en train de se mettre...
Qu'est-ce qui va vraiment changer?
Alors, dans la sélection naturelle, parce qu'il s'agit bien de ça, c'est pas la loi du plus fort, faut arrêter avec ces bêtises. La sélection ne crée rien, les termes ont un sens tout de même. Ça veut dire que toutes les tendances qui émergeaient, par exemple pour les entreprises, les problématiques RSE, qu'on appelle entreprises à mission, et ça, la littérature anglo-saxonne en parle beaucoup depuis quand même pas mal de temps. Tous les enjeux qui sont sur les responsabilités, sur les nouvelles formes d'innovation, c'est-à-dire les méthodes agiles, par exemple, etc. Tout ceci était déjà émergent. Et si on regarde dans les études internationales, d'ailleurs une des meilleures études est celle de la Commission européenne, je signale, sur justement quel était le télétravail avant la crise de la Covid, on s'aperçoit que, en fait, en moyenne bien sûr, c'était 7% des tâches qui étaient effectuées à distance et en forme de télétravail. On s'aperçoit d'après les études actuelles et puis l'expérience de la Covid, et je rappelle que l'expérience de la Covid, c'était pas une expérience qui avait été négociée, c'est-à-dire que c'était brutal, il a fallu y aller et donc il a fallu se mettre dans le télétravail dans des conditions non préparées. Ce qui veut dire que l'expérience peut apporter plus de fruits qu'on l'imagine.
Mais c'est là qu'on voit tout l'intérêt de la théorie de l'adaptation, c'est-à-dire qu'il y a un choc brutal et là on voit on s'adapte.
Et l'adaptation c'est exactement ça, elle ne crée pas des choses nouvelles, elle va en fait accentuer les facteurs qu'on appelle signaux faibles qui sont émergents et c'est ça qui est en train de se mettre en place.
Mais c'est là où vous rappelez souvent la lecture darwinienne et les contresens que l'on fait sur cette lecture. C'est-à-dire qu'en gros, Darwin ne dit pas que c'est le plus fort qui triomphe, c'est le plus fort qui s'impose au plus faible. Ce que dit Darwin, c'est que la sélection naturelle, c'est surtout le choix du plus agile, du plus performant.
À un moment donné, dans des circonstances données. Mais par exemple, ceux qui sont défavorisés à un moment donné peuvent être favorisés dans d'autres circonstances. C'est pour ça qu'il faut toujours maintenir de la diversité. Alors pourquoi, je n'ai pas répondu à la question, une révolution anthropologique. Si vous posez la question, et je vous la pose, quels sont les pays où il y a plus de télétravail avant la crise de la Covid? On va imaginer l'Angleterre, l'Allemagne, le Japon, toujours les grands classiques. Faux. C'est de la Hollande. La France était pas mal classée, mais on verra pourquoi elle a décroché un peu. De la Hollande jusqu'aux pays du Nord. Pour quelle raison? C'est pas pour une raison liée à la technologie ou au profil de l'économie. Par exemple, l'économie anglaise est très financiarisée, elle est très sur les services, donc beaucoup se fait en ligne. Non, c'est les pays dans lesquels il y a une meilleure répartition des tâches entre les hommes et les femmes. Donc voilà. Oui, voilà les raisons anthropologiques. Deuxième raison anthropologique, c'est qu'aujourd'hui, la Terre est devenue plate. Alors attendez, je ne suis pas devenu créationniste. Hein. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'on sort quand même de 5 siècles où l'Occident a dominé le monde, jusqu'à la fin du 20e siècle. Monsieur Francis Fukuyama qui nous dit c'est la fin de l'histoire, notre modèle est le meilleur. On voit ce que font les Chinois aujourd'hui. Et en l'occurrence, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'aujourd'hui, des hommes et des femmes de tous les pays, de toute la diversité, sont connectés avec nous et apportent de la créativité. C'est-à-dire qu'en fait, on est sorti de la vision verticale qui était le modèle occident, qui n'a pas tout faux, mais qui n'a pas tout juste, comme toujours dans l'évolution, mais qu'en l'occurrence, on va s'apercevoir certainement que des compétences sont partout dans le monde et de travailler à distance avec des gens de toutes les diversités va certainement apporter, je l'espère, un nouveau regard sur le futur de l'humanité.
Alors, c'est ça qui est très intéressant, parce que vous dites quand même la théorie de l'évolution, elle a sa loi d'airain, et sa loi d'airain, c'est quand même que les populations qui s'adaptent le mieux aux changements imprévisibles de leur environnement sont celles qui jouissent d'une plus grande diversité bien sexuelle, sûr, ethnique, culturelle. Ça veut dire que là, le fait que le monde, dans toute sa diversité de culture, ait été confronté au même problème, au même moment,
c'est le point,
va faire émerger finalement des solutions nouvelles.
C'est la première fois que ça arrive depuis 10 000 ans. Il y a 10 000 ans, toutes les sociétés étaient des économies de chasse et de collecte.
Ouais.
Certaines sociétés, alors beaucoup ont développé l'agriculture, ensuite les civilisations, là ensuite on rentre sur ce qu'on a appris à l'école, et puis donc cette verticalisation que j'évoquais avec l'Occident qui va dominer le monde, parce que la Chine était la première économie jusqu'à la fin du 19e siècle, là maintenant on s'en rappelle. Mais bon, il y a eu cette domination de l'Occident, et qu'en l'occurrence aujourd'hui, tout ceci est complètement simultané. C'est la première fois que ça arrive depuis 10 000 ans. Qu'est-ce qui va en émerger? On voit bien les problématiques RSE, ce que fait l'Europe aujourd'hui sur la taxe carbone, etc. On va voir ce que ça va donner, parce que c'est pas simple cette affaire-là. Mais néanmoins, on s'aperçoit que un virus nous a rappelé que nous sommes tous sur la même planète et que les problèmes sont globaux et évidemment et simultanés. C'est ça la grande nouveauté. Et en plus, on est dans un âge entrepreneurial. C'est ça qu'ont apporté les nouvelles technologies. J'ai mis, on verra sur Internet des fois, que Pascal Pic a créé le concept de espace digital darwinien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les idées que l'on avait sur le développement et le progrès, c'était, comme je le rappelle, un grand consensus de la société, et il fallait développer les infrastructures, la médecine, l'éducation, les biens, les services. Ça a très bien fonctionné, en moyenne, jusqu'à la fin du XXe siècle. Et puis, il y a un gars qui arrive en 2007 sur une scène, en janvier 2007, Il dit, regardez, I'm going to change the world. C'est Steve Jobs, avec le smartphone, enfin le iPhone. Il ne savait pas lui-même comment ça allait changer. Mais il savait que ça allait changer les choses. Et en l'occurrence, ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de là, des hommes et des femmes dans le monde entier...
Ça, c'est une révolution anthropologique.
En créant des applications, peuvent créer des ce qu'on appelait l'ubérisation, mais on n'en parle plus, maintenant c'est dans les mœurs, qui peuvent changer les secteurs entiers. Et donc c'est ça qu'on n'avait pas vu, et ça c'est parfaitement darwinien dans le processus d'émergence.
Alors, ce qu'on dit du monde et des sociétés diverses, c'est encore plus vrai pour les entreprises. Les entreprises qui entretiennent la diversité sont celles qui performent le mieux.
Et regardez aujourd'hui la diversité, mais également comment les entreprises sont notamment les plus grandes, sont capables de tisser maintenant des approches écosystémiques. Écoutez, c'est pas Pascal Pic qui dit, voilà, on va encore faire de l'évolution dans le champ de la culture entrepreneuriale, mais c'est quand même le terme qui est sorti du World Economic Forum, c'est-à-dire de Davos. Écosystème, ça veut dire quoi? Alors, l'idée n'est pas récente, mais là, maintenant, on sait comment ça fonctionne. Et là, il va falloir qu'on réfléchisse assez vite sur ce que ça veut dire, parce que les entreprises, évidemment, sont avec les clients, c'est pareil en médecine, c'est pareil dans l'éducation. On a complètement inversé les choses sans s'en apercevoir. C'est-à-dire qu'avant, tout le monde allait à l'école de masse pour être cultivé. J'en ai bénéficié, moi, en tant que baby-boomer, bien évidemment. La médecine, on traitait de manière générale. Et puis, en plus, les clients, c'était une masse un peu informe. Aujourd'hui, c'est une inversion totale. Tout est centré sur le client, sur le patient, sur l'élève. Ça, c'est les nouvelles technologies qui nous ont permis. Et ceci, donc, nous amène sur des relations écosystémiques. Et je vais vous donner un exemple. Vous avez tous vu Jurassic Park. Du temps de Jurassic Park, chacun faisait son job, si je peux me permettre, de son côté. Arrive l'événement que vous connaissez, et l'ère tertiaire. Là, il faisait 15 degrés de plus sur la Terre qu'aujourd'hui. Des forêts d'un cercle arctique à l'autre. Qui arrivent? Les insectes butineurs, les oiseaux butineurs, qui, en allant chercher leur pollen, et leur nectar, vont rendre un service gratuit à la plante. C'est-à-dire les féconder.
Ouais.
Mais une fois que la fleur est fécondée, c'est un fruit. Et qui déboule là? Ben nous, les singes. Et en mangeant les fruits, on va distribuer les noyaux et les graines. C'est-à-dire qu'un écosystème dans lequel, où chacun en veillant sans intérêt, rend des services plus ou moins gratuits à d'autres entités, vous avez un écosystème qui est beaucoup plus innovant, plus de biodiversité, et qui résiste aux espèces invasives. Et c'est cette logique-là qui se met en place.
Sauf que, vous dites, Pascal Pic, la France regarde trop en arrière, entretient à l'excès la culture des acquis et de l'organisation pyramidale, exactement comme les macaques, qui apparemment ne sont pas organisés comme les chimpanzés. Alors, est-ce que l'avenir appartient plutôt aux chimpanzés ou plutôt aux macaques?
Il y a toujours des macaques et il y a toujours des chimpanzés. C'est bien une question de management et de stratégie d'entreprise. Et là, il faut savoir où on va. Regardez à quelle vitesse on a eu les vaccins. On avait dit qu'il fallait 2 ans.
Ouais.
En 6 mois, on a eu plein de différents vaccins. Et ça, c'est une bonne nouvelle, face aux variants, d'avoir différents types de vaccins. Face à la diversité, il faut d'autres diversités, on l'a déjà dit. Et derrière cela, maintenant, vous êtes dans les génériques. N'allez pas vous embêter avec les méthodes agiles et la méthode chimpanzé. Soyez extrêmement directif, productif, efficient. Donc, il faut savoir où vous êtes. Moi, je suis un peu agacé autour des entreprises, parce que vous le savez, j'interviens pas mal dans le monde économique et social, avec les méthodes, oui, faites des méthodes agiles partout. Non, c'est complètement crétin. Et donc, les chimpanzés, l'avantage, c'est que, on en parlera certainement avec l'autre invité et auteur, c'est un leadership qui est basé sur, bien sûr, du statut, mais de la compétence. C'est-à-dire que, et c'est ce qu'on va connaître avec les formes de travail à distance. On a entendu, par exemple, des gens qui disaient « Ah oui, mais on peut plus résoudre de problèmes complexes avec des gens à distance. » C'est faux, c'est les méthodes de plateforme. Mais dans beaucoup d'autres circonstances, il faut effectivement que les gens soient en présentiel. Vous voyez, c'est du management, tout ça, c'est du bon sens.
Alors, justement,
et de bonne stratégie. Alors que le système macaque est directif. Ça veut dire quoi pour le télétravail? Ou vous faites des tâches qui sont chiantes avec un contrôle, on sait le faire, qui ne sont pas épanouissantes, ou vous engagez les gens sur des tâches plus collaboratives, et c'est ça évidemment qui va intervenir.
Alors Philippe Petitfrère, d'après ce que je comprends, il y a 50 ans, le chef c'était un macaque, et aujourd'hui le chef ça doit être un chimpanzé.
Il organisait le consensus.
C'est ça. Alors, ce qu'on attendait d'un chef il y a 50 ans, c'était quoi?
Eh bien c'était de rassembler et d'organiser le consensus, à peu près, aussi bien que possible. Il le faisait vaille que vaille. Mais c'est comme ça que ça marchait.
Je croyais qu'il y a 50 ans, le chef, il était autoritaire, imposait.
Il faisait ça de façon plus ou moins violente.
Ouais.
Bien entendu. Et d'ailleurs, notre bouquin, il ne parle pas uniquement des chefs. Il parle des parents.
Oui, absolument.
Il parle chefs d'entreprise.
D'ailleurs, je vais poser ma question différemment. De quelle sorte d'autorité avions-nous besoin il y a 50 ans?
Sans doute une autorité assez directive.
Ouais. Alors aujourd'hui, de quoi ce qu'on a besoin. De quelle autorité on a besoin ?
Pic l'a dit il y a quelques minutes, on n'a plus besoin de ça, et c'est plus possible. Et non seulement c'est plus possible, mais ça n'est plus acceptable.
C'est ça.
C'est plus acceptable. C'est ça. Ça n'est plus audible. J'entends beaucoup de gens qui disent « Ah, mais c'est vachement mieux avant, parce que franchement, on disait quelque chose, et c'était suivi. Il y avait une espèce de consensus naturel. » Ceci n'existe plus.
Oui, parce qu'on respectait la hiérarchie.
Oui.
C'est-à-dire que quelqu'un était au-dessus de nous, c'était nos parents, c'était notre chef, le statut prévalait. Maintenant, on a l'impression que pour être un chef respecté, il faut convaincre. Vous voyez ce que je veux dire ?
J'ai dirigé et restructuré une boîte. Il y avait des pneus qui brûlaient, il y avait la révolution, le CE était envahi par les syndicats. N'empêche que, à partir de 3 ou 4 heures du matin, on retrouvait, au fond, une espèce de manière de s'entendre et d'aller de l'avant. Aujourd'hui, terminé.
Mais qu'est-ce qui a changé ? Comment ça s'explique, cette évolution ?
D'abord, l'accélération. Attendez, on est dans une période de rupture sur le plan de l'accélération, c'est une vitesse folle. La globalisation, évidemment. Et puis le numérique, on en parlait à l'instant, c'est les trois choses qui ont fondamentalement bouleversé, et c'est ce qui nous a amené à écrire ce bouquin, fondamentalement bouleversé l'exercice et la transmission de l'autorité. Et donc ça ne marche plus.
Parce qu'il y a un point, on se dit quand même, avant il y avait un respect du savoir. Le chef, c'était celui qui savait ce que vous ignoriez. Mais aujourd'hui, le savoir, il est partout.
Oui.
Il est sur Internet, la connaissance, vous allez la chercher partout. Donc, c'est plus ça qui fait l'autorité d'un chef.
Non, c'est pas ça qui fait.
Qu'est-ce qu'on respecte aujourd'hui chez son chef ?
Sans doute la crédibilité. Ouais. C'est ce que disent. On dit qu'à un moment que les étudiants. On a interrogé des étudiants, plutôt des élèves d'ailleurs, sur qu'est-ce qui vous branche chez un chef ? Qu'est-ce qui fait que vous avez envie de l'écouter, de le suivre, etc. C'est des trucs très très simples. Il faut qu'il soit crédible, il faut qu'il ait de la connaissance, il faut qu'il soit juste. Et puis voilà. Puis
alors, pendant longtemps, le chef en France, peut-être plus qu'ailleurs, dans une entreprise, un atelier, etc., c'était forcément le meilleur technicien.
Ça l'est encore, malheureusement.
Oui, mais c'était pas forcément le meilleur chef.
Non. Dans beaucoup de cas, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'on continue de faire, et le système éducatif y contribue, hélas, très largement, on contribue de faire de la promotion par la connaissance et par la technique.
Aujourd'hui, on dit qu'il faut être responsable et autonome.
Mais ça, c'est un des problèmes, parce que si on n'est plus dans un management très directif, on devient co-responsable de l'action, c'est ça. Dans le management à l'ancienne, on vous disait de faire ça, on y allait, mais je ne suis pas responsable si ça ne va pas ou pas. C'est le chef qui a dit de faire ça. Aujourd'hui, ça devient très différent.
C'est ça que vous soulignez dans votre livre.
C'est quand même plus compliqué que ça.
C'est l'injonction contradictoire.
C'est l'injonction paradoxale. Mais surtout, le rôle du chef, il est de faire ça.
Alors, pour nos auditeurs à la radio,
c'est de faire.
Parce que là, vous faites des grands gestes pour nos téléspectateurs, mais pour nos auditeurs à la radio, le rôle du chef, c'est quoi ?
Je vais le dire en anglais, c'est de faire du bottom-up, c'est-à-dire de partir de la base et de monter vers le haut. C'est-à-dire de rassembler les gens, mais par en dessous, faire en sorte d'en appeler à leur créativité et à leur manière de faire ensemble, de co-produire.
Voilà.
Plutôt que d'imposer la manière dont on va le faire avec un crâne d'œuf.
Ça correspond à quelque chose dans la nature, ça, Pascal Pic.
C'est la chasse chez les chimpanzés. Les chimpanzés, c'est d'excellents prédateurs. Si le N-3 est bien reconnu comme le plus compétent pour diriger une chasse, ils vont chercher des singes, d'autres singes, évidemment, dans la canopée. Je veux dire, espace à trois dimensions, c'est compliqué. Tous vont se mettre sous son leadership. Mm-hmm. Donc, il va attraper une proie, et celui qui était responsable, évidemment, et désigné comme tel, et qui a bien fait ses missions, deviendra la puissance invitante, parce que même les autres, les dominants, pourraient lui piquer sa proie. Et auquel cas, il y a de la reconnaissance sur sa compétence. Et c'est-à-dire que les chimpanzés, quand ça marche bien, c'est pas tous les groupes qui font ça, attendez, ça veut dire quoi ? C'est que il n'y a pas de confusion entre le statut et les compétences. Ils dissocient les deux, et c'est pas parce que, même si je suis à un niveau hiérarchique supérieur, et que je suis sous le leadership...
Vous pouvez confier une mission
Et la reconnaissance. Un des enjeux du télétravail, ça va être ça. C'est-à-dire, comment se fait la reconnaissance et la valorisation de mon travail, alors que je suis pas en contact avec les autres, ou je travaille dans des formes d'équipe différentes. Alors que chez les macaques, c'est directif, donc il n'y a pas de souci. Chacun fait ça, il n'y a pas de culture des erreurs.
Moi, j'ai entendu parler, maintenant, de fonctionnement des entreprises. Alors avant, on parlait de fonctionnement en mode baleine, c'est-à-dire une espèce de grosse entité qui se déplace comme ça. Et puis maintenant, on parle du banc de poissons. C'est-à-dire qu'en gros, des gens où on a l'impression qu'il n'y a pas de chef et où chacun maîtrise suffisamment les réflexes, la raison d'être de l'entreprise, etc. Et hop, tout le monde se déplace et agit de la même façon.
Il y a une étude qui a été faite par l'ESSEC il y a plusieurs années, qui a envoyé deux ou trois, je crois, étudiants dans le monde entier pour faire l'inventaire de tous les sites qu'ils pouvaient reconnaître comme n'ayant pas de chef, fonctionnant sans chef.
Ah oui? Et alors?
Eh bien, ils sont rentrés avec des pots de chagrin. Ils sont rentrés avec rien du tout. Ça ne marche pas.
Mais non.
Il faut qu'il y ait des chefs. C'est ce qu'on dit depuis le départ. Et d'accord, c'est plus les mêmes, mais évidemment, il en faut. Et il faut qu'ils soient capables d'organiser le consensus, mais d'une autre manière.
Ce n'est pas un problème de hiérarchie, c'est comment s'exprime la hiérarchie en termes d'autorité ou de délégation de compétences. On a regardé quels sont les groupes qui innovent le plus chez les populations humaines, les entreprises, mais aussi les espèces de sages.
Ouais.
Et là, je vais vous dire, c'est universel. On se fiche de savoir si c'est les chimpanzés, les bonhommes ou les macaques les meilleurs. On a regardé quelles sont celles qui innovent le plus. Eh bien, c'est très clair. C'est des sociétés dans lesquelles il y a bien sûr un leadership, il y a toujours des chefs, mais avant d'imposer une idée ou un mouvement, on essaie de regarder le consensus, et ça peut très bien se faire même sans langage. C'est aussi un leadership qui est très à l'écoute des initiatives et des compétences des autres et qui va les diffuser tout en reconnaissant les compétences. Et ça, et ça c'est parfaitement universel. Par contre, vous avez aussi l'autre universel qui est top-bottom. Là, ça moufte pas. Et bon, ben, y en a encore des comme ça.
Philippe Petitfrère, la responsabilité de chef, on voit bien qu'il y a 50 ans, c'était pas pour les femmes.
Non.
C'était, il y avait que des hommes qui étaient chefs.
Bien sûr.
Est-ce que maintenant, il vaut pas mieux être une femme pour être un bon chef?
Je crois pas qu'il vaut mieux. Je crois qu'il en faut. Je crois que on ne peut plus imaginer aujourd'hui des sociétés qui n'auraient pas. Je sais pas faire le débat de parité 50-40, je sais rien du tout, mais qui n'auraient pas de femmes. Et nous, on observe dans nos activités que toutes les sociétés qui n'ont que des hommes. Au fond, claudiques, font pas très bien. Et à l'inverse, toutes les sociétés où il n'y a que des femmes, ça marche pas très bien non plus.
Hein. Mais alors là, vous êtes 100% alignés tous les deux. C'est-à-dire qu'en gros, c'est encore une fois, la diversité, c'est la clé absolue de la réussite et de l'adaptation.
C'est pas que la diversité de genre, c'est aussi la diversité de culture.
Et voilà,
en d'autres termes,
important.
Cette espèce de clonisme dans lequel on s'est engagé pour n'embaucher que des polytechniciens, centraliens, HEC et ESSEC, est une véritable catastrophe parce qu'on fait de l'entre-soi.
Donc nous, avec nos grands corps et tout ça, on n'a rien compris, en fait.
Ça fonctionnait à une époque, mais ça ne répond plus aux enjeux d'aujourd'hui.
Non, ça répond plus.
C'est-à-dire, quand on est évolutionniste, il ne faut pas dire que les adaptations du passé étaient mauvaises ou pas. C'est toujours un compromis.
Bien sûr.
En l'occurrence, et merci de vous avoir entendu de cette manière-là, il faut aussi, en disant qu'il faut des femmes et des hommes, il ne faut pas tomber sur les clichés, en disant que les femmes ont des valeurs qu'auraient pas les hommes. Ça, c'est une question d'éducation et de culture.
Ah oui, je vois ce que vous voulez dire. C'est-à-dire qu'en gros, dire on va prendre des femmes parce qu'elles ont telle qualité et prendre des hommes parce qu'ils ont telle qualité, ça, c'est n'importe quoi.
Mais en même temps, on va accepter que l'un et l'autre sont différents.
Voilà, exactement.
Ah ouais, d'accord.
C'est toujours cette histoire de diversité.
Grand moment d'anthropologie, je suis heureux.
Bon, donc, on a toujours besoin de chefs, ça c'est clair.
Bien sûr.
Ah oui.
Bon, et le profil du chef idéal aujourd'hui, c'est...
Alors, nous, on a quelques idées très, très, très simples là-dessus. La première, c'est que il est local. Je ne crois pas du tout à la possibilité d'être vraiment un chef dans une entreprise quand il y a plus de 1000 personnes. C'est très très compliqué. Donc il faut que l'autorité, elle soit investie sur des petits groupes.
Ouais. C'est étonnant.
Mais même des grands groupes, c'était le problème de Boeing d'ailleurs.
Bien sûr. Alors, et regardez ce pauvre président de la République qui pédale comme un malade à essayer de créer de l'autorité, de mettre un carré dans un rond, enfin, et en allant à Marseille en faisant tout un truc comme ça.
Ça c'est typiquement français, au sens où nous, on attend du chef de l'État qu'il soit une espèce de super-héros qui va nous sauver, cette espèce c'est très français aussi.
Si on compare après le premier confinement, il est tout à fait symptomatique de remarquer que les entreprises françaises ont plus incité le présentiel parce qu'on aime bien. Alors, ça, c'est pas la qualité de la présence, le présentiel directif. Hein. Mais de l'autre côté, en Angleterre, non, pas du tout. Ils ont beaucoup plus... Parce que nous, on reste encore napoléoniens et liés à l'idée du chef que vous évoquiez des années 50.
Juste pour terminer, la bonne organisation là, du télétravail, c'est quoi?
Là, je suis très heureux de la nouvelle décision qui était de dire non-décision, deux jours systématiquement par semaine, c'est complètement crétin. Ça dépend des tâches, ça dépend des gens, ça dépend des métiers. Et tout ceci va nécessiter un consensus, comme on le disait tout à l'heure, avec des vraies autorités partagées.
Une dernière remarque. je m'en voudrais de pas la faire, il faut torpiller le système éducatif aujourd'hui. Et le remplacer par autre chose.
Mais par quoi ? Vous avez 10 secondes. Par quoi ? C'est quoi la première chose qu'il ne faut plus faire ? C'est quoi ?
Eh ben c'est entretenir une espèce de nomenclatura conservatrice, voilà, qui évite que ça bouge, quoi. Allègre était plutôt sympathique, il avait une bonne intuition. Le seul truc, c'est qu'il a dit des bêtises. Il ne faut pas dégraisser le mammouth. Au contraire, il faut le renforcer, le mammouth. Mais de bonne manière, pas en conservant ces espèces de hiérarchies intermédiaires inutiles.
Merci beaucoup, messieurs. Je rappelle vos deux livres, Pascal Pic, Les chimpanzés et le télétravail, aux éditions Erol, et puis L'autorité en question, par Patrice Huer, Philippe Petitfrère, c'est aux éditions Odile Jacob. On se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de l'émission.
BFM Business, la librairie de l'écho. Emmanuel Lechypre.
On se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho. Nous la clôturons comme de coutume avec nos chroniqueurs. Aujourd'hui, notre bibliothécaire Fred Simotel, notre globetrotteur Benaouda Abdedaïm, et puis tout de suite, évidemment, nos critiques attitrés. À ma gauche, Christian Chavagneux, l'éditorialiste et le critique d'Alternative Économique. Et puis à ma droite, Jean-Marc Daniel, professeur émérite à l'ESCP et qui, lui, critique régulièrement pour la Société d'économie politique. On commence avec le choix de Christian, j'allais dire, Christian, le livre, c'est une espèce de statue de commandeur de la gauche. Pierre Rosanvallon, Les épreuves de la vie, aux éditions du Seuil.
Petit livre, 150 pages, qui se lit vite, mais qui mérite d'être lu et relu. Pierre Rosanvallon essaie quelque chose de difficile, d'essayer d'appréhender la société française par les sentiments de la société. Donc c'est appréhender quelque chose de si subjectif, c'est pas évident. Et il nous dit, pour bien appréhender les sentiments d'une société, il faut regarder les épreuves que traversent les gens au cours de leur vie. Ce qu'il essaie d'expliquer, c'est pourquoi, pour lui, le sentiment général qui domine, c'est le ressentiment, la défiance, la méfiance. Pourquoi est-ce que c'est le sentiment qui prédomine dans la société française ? Il dit, on peut essayer de le comprendre en regardant les épreuves de la vie que traversent ces gens. Il y a les épreuves de l'intégrité personnelle, il nous dit. On en parle beaucoup dans les médias depuis un an, deux ans, c'est l'inceste, c'est le viol, c'est le burn-out. Ça fait la une de l'actualité, on en débat enfin, il l'expose, mais sans s'attarder. Il y a les incertitudes, il y a les épreuves qui sont liées à la certitude en général, sur l'avenir. Le réchauffement climatique, le nucléaire, les pandémies, ça c'est très anxiogène. Il dit là, il y a deux façons de rationaliser, soit on les nie, soit on dit c'est le résultat d'un grand complot. Donc il nous explique en même temps pourquoi le complotisme monte. Et puis il nous dit, et c'est l'essentiel du livre, il y a les épreuves du lien social. L'épreuve du lien social, c'est le mépris, c'est l'injustice et c'est la discrimination. Et il dit, le mépris, c'est au cœur aujourd'hui de la compréhension de nos sociétés. Si on essaie de l'appréhender par les sentiments. Il dit, je vous donne un exemple. Parce que, évidemment, comme c'est Pierre Rosanvallon, il nous fait une dimension historique à chaque fois. Il dit, ça commence dans la société de caste, c'est des nobles. L'aristocratie est très condescendante, elle a du mépris pour le reste de la population. Il dit, on retrouve ça encore aujourd'hui, ce forme de mépris, de condescendance. C'est vrai chez les élites, c'est vrai chez Emmanuel Macron, il nous dit, par exemple, et c'est du style... il faut éduquer les Français à la démocratie, il faut éduquer les Français à l'économie. Voilà, vous n'y comprenez rien, nous, élites, on va vous l'expliquer. Mais il dit, mais c'est pas que chez les élites, vous pouvez avoir le lycéen de bac général qui a ce mépris de condescendance vis-à-vis du lycéen de bac pro, par exemple. Et il nous dit ça, c'est important parce que les gens vont essayer, ils vont pas rester comme ça, méprisés, ils vont se rebeller. Il dit, il y a un moment où il y avait une fierté dans le fait d'appartenir à la classe ouvrière, par exemple. Et donc c'était, on allait, ce que la société nous donnait pas en reconnaissance, on allait le chercher ailleurs, la fierté d'appartenir à la classe ouvrière. Et ça a disparu aujourd'hui. Et les gens vont chercher d'autres types de fierté, mais qui sont ce que Rosanvallon appelle des fiertés perverties. Par exemple, le fait d'être un moyen, et on méprise les petits, le fait d'être un homme, on méprise les femmes, d'être un blanc, on méprise les immigrés, etc. Et donc il essaie de nous détailler toutes ces fiertés mal placées. Et enfin, il nous dit, comment est-ce qu'on peut faire pour répondre à tout ça ? Et il dit malheureusement, la gauche essaie de répondre en rationalisant. Oh bah oui, il y a beaucoup d'injustices. Regardez les 1% les plus riches. Il dit, mais les 1% les plus riches, nous, on les côtoie pas. Bah, parce que l'injustice pour nous, le sentiment d'injustice, c'est les gens à côté. Le prof qui est mieux payé que nous, le voisin qui est mieux logé, le collègue, etc. Et donc il dit, ceux qui ont vraiment répondu à ça, c'est qui ? C'est des entrepreneurs d'émotion, ce sont les populistes, ce sont les activistes des médias sociaux qui jouent sur l'émotion et qui font une politique d'émotion. Comment est-ce qu'on peut contredire ça ? Ben, c'est pas facile.
Et il donne pas de réponse ?
Non, c'est pas facile à la fin.
Bon, Jean-Marc Daniel.
Oui, Christian a assez bien résumé le livre, qui est un livre effectivement assez court. En plus, à la fin, il y a des contributions de gens dont on ne voit pas très bien pourquoi ils sont là, elles sont là, enfin, qui n'apportent pas grand-chose. Je les ai assez vite parcourus. Et donc, il y a une analyse assez serrée, il faut s'accrocher quelquefois. Les digressions historiques, effectivement, sont nombreuses et quelquefois un peu surprenantes par rapport à la logique du texte. Ce qui est intéressant pour compléter ce qu'a dit Christian, c'est qu'il insiste bien sur le fait que, en plus, en donnant de plus en plus de liberté aux gens, on leur a donné de plus en plus le sentiment qu'ils étaient responsables de ce qui leur arrivait, et donc d'être obligés, effectivement, d'avoir ce ressentiment. Tout ce qu'ils vivent, avant, ils le vivaient comme étant quelque chose qui, finalement, leur avait été imposé. Il dit bien, quand il compare la noblesse à Figaro, il dit Figaro, finalement, il n'a pas les moyens de contester ce que fait le comte Alba Viva. Hein. Il n'est pas noble. Maintenant, on dit aux gens, mais si vous voulez réussir, si vous voulez être Macron, vous n'avez qu'à passer le concours d'entrée à l'ENA. Et il vous méprise parce que vous avez été pas capable, vous êtes un incapable. Il vous méprise parce que objectivement vous n'êtes pas à la hauteur. Et donc il dit, ça crée une ambiance, c'est une ambiance délétère. Et il insiste aussi sur d'autres faits, c'est qu'un certain nombre de structures, donc on a parlé des partis politiques, mais il dit, il y a une anxiété générale. Il dit, à chaque fois qu'il y a un problème, il y a le sentiment, l'émotion, et donc les problèmes d'incertitude, ça se transforme en anxiété. Et il dit, même la famille, par exemple, c'est plus un refuge.
C'est compliqué à entendre dans un des pays qu'on considère comme étant un des pays où les gens sont les plus protégés.
Exactement.
Déjà, par rapport aux pays anglo-saxons...
C'est toute la subtilité, et donc l'impasse et la faiblesse du livre, c'est qu'il dit tout ça, ce sont des émotions. Mais comment on les mesure pas, comment à la fin, comme vous le disiez, quelle est la réponse qu'il dit ? Ben, la seule proposition qu'il fait de concrète, c'est de créer un observatoire
du mal-être.
Au lieu de l'observatoire du bien-être. Voilà, on va créer un observatoire du mal-être et on va demander à l'INSEE de mieux mesurer l'anxiété, le sentiment d'injustice, le mépris. Bon, on peut demander effectivement aux gens de l'INSEE de faire des indicateurs, mais ça ne résoudra pas fondamentalement les problèmes qu'il identifie. Donc, c'est un peu une impasse comme livre. Ouais,
enfin, ce qui est inquiétant, c'est qu'on vit dans un pays dans lequel la liberté est anxiogène, en fait. Finalement.
Absolument, c'est ce qu'il dit un peu. Il dit ce que les valeurs que vous avez mises en avant finalement sont en train de faire le malheur de la population.
Alors, parlez-nous d'une famille comme on en
qui
côtoie.
Pas anxieuse du tout.
Pas anxieuse et comme on n'en côtoie jamais. Qui fait partie même pas des 1%, des 0,001%.
Voilà, absolument. Donc,
c'est les Rockefeller.
Les Rockefeller. Donc, c'est le livre de rentrée de Tristan Gaston-Botton. Donc, c'est un habitué.
Chez Talendier.
Chez Talendier. Il y a 2 ans, c'était Basile Zaharoff. Il y a 4 ans, c'était les Rothschild. Donc, il y a une sorte, tous les 2 ans, nous avons notre saga familiale. Ou notre chef d'entreprise, notre personnage clé de l'économie qui est expertisé. Donc là, c'est les Rockefeller. En fait, c'est 7 portraits. C'est les portraits de 7 personnages, 7 et demi. Donc il y a le fondateur de la dynastie qui a fait fortune dans le pétrole, dans la raffinerie du pétrole, à partir de Cleveland dans l'Ohio, et ensuite qui s'est installé à New York. Il y a son fils, et puis il y a les 5 fils de ce fils lui-même, donc les 5 petits-fils du fondateur. Et je dis et demi parce qu'il y a aussi un portrait qui est assez haut en couleur du père du fondateur, qui est un aventurier, un personnage d'ailleurs qui l'a beaucoup marqué, notamment par ses absences, et pour une raison assez nette, il était absent parce qu'il était bigame, donc il avait 2 familles, une dans l'Ohio et une au Canada, et donc ça lui prenait un certain temps d'aller de l'une à l'autre quand même. Alors c'est extrêmement, on apprend énormément de choses, il décrit bien tous ces personnages, il décrit assez bien de façon à la fois très, très sympathique, enfin il leur donne une vraie dimension humaine. Il décrit bien que, en fait, la saga des Rockefeller repose sur 2 choses, sur le sens des affaires et puis sur aussi, comme ils ont été très vite critiqués, très vite montrés du doigt par la presse, par la population, ils ont été associés à des événements assez dramatiques, une émeute dans une mine qui tourne au véritable massacre, la garde privée de l'entreprise dont ils sont propriétaires ayant tiré sur les mineurs. Donc, ils ont fait énormément de philanthropie, sachant que chaque fois qu'ils ont fait de la philanthropie, on les a plus ou moins accusés d'être des tartuffes. Donc il a fallu qu'ils s'expliquent. Alors on en ressort avec effectivement beaucoup d'informations, pas véritablement de conclusions. Il ne tire pas de conclusions sur comment on fait pour devenir riche. C'est vraiment un parcours dans l'histoire américaine. Voilà, c'est donc c'est une sorte de roman vrai d'une famille américaine qui a bien réussi.
Christian Chavagneux.
Bon, on n'est pas dans les grosses biographies à la Ron Chernow. Hein. On en a les 1000 ou les 1500 pages. Donc on surfe un petit peu sur la vie, comme il y a beaucoup de personnages. Bon, il fallait que ça tienne. Alors c'est vrai qu'on est fasciné par le père de John Rockefeller, qui est un escroc bigame total, et qui fait que le gamin en fait est un peu sur lui-même. Il est avec sa mère et sa mère elle compte bien les sous, et donc lui tout petit déjà l'argent c'est au centre de ses préoccupations. À 19 ans il dit mon destin de devenir riche. Enfin, moi je le plains un peu parce que à 19 ans il avait qu'une seule obsession, c'était de devenir riche. Moi je croyais aussi que le pétrole était la source de toute la fortune de Rockefeller, mais là ce qu'on apprend c'est que d'abord sa première fortune il l'a fait pendant la guerre de sécession. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui, après la première guerre mondiale, ce qu'on appelle un profiteur de guerre. Et il va, avec cet argent, il va investir dans le pétrole, avec tout ce qu'on sait des barons voleurs à l'époque, c'est-à-dire qu'il sabote les concurrents, il achète les voix des politiciens pour avoir les règles qu'ils lui font, la gouvernance et les finances sont complètement opaques, il exploite les ouvriers, il vomit les syndicats jusqu'à en faire tuer quelques ouvriers contestataires. Et donc on a vraiment cette origine un peu noire, c'est le cas de dire, de la fortune de Rockefeller. Le deuxième, aussi c'est un enfant qui joue avec personne, qui reste tout le temps prostré sur lui-même. Lui, il va s'occuper de le côté philanthropique. Et puis, on a la génération d'après. Il y a un politicien complètement loupé qui est devenu vice-président des États-Unis. On l'a complètement oublié. Oh, c'était un fraudeur fiscal aussi. Il y en a un, moi, c'est le seul que je connaissais de cette génération, qui est David Rockefeller, grand banquier américain, mais grand banquier mondial en Asie, en Europe. En Europe, on l'avait vu passer beaucoup. Le dernier, enfin, un autre frère, parce qu'ils sont quatre, il y a un autre frère qui est complètement dépressif et alcoolique, qui va mourir jeune. Bon, une famille pas facile. Et la dernière génération, moi, je ne connaissais aucun de cette la génération actuelle, ils sont tous écolos, de gauche et sociaux. Et ils mettent l'argent des Rockefeller vers la gauche. Donc c'est plutôt amusant comme un retournement complet de critique des valeurs fondatrices de la première génération. C'est amusant.
Il faut que tout change pour que rien ne change finalement.
Pour que tout change.
Enfin, pour que la fortune reste, il faut que tout change. Voilà,
à la fin, ce qu'on ne sait pas, ce qu'il y a de plus difficile et humiliant pour la famille, c'est de savoir que le Rockefeller Center a été racheté par les Japonais ou que les héritiers finaux ont décidé de quitter ExxonMobil avec véritablement c'est à la clé.
Merci messieurs. C'est l'heure de retrouver notre bibliothécaire qui nous emmène dans l'avenir des jeux vidéo. Frédéric Simotel.
BFM Business, la librairie de l'écho. Les livres d'hier et de demain.
Frédéric Simotel, bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Frédéric, notre bibliothécaire du jour. Avec vous, on va voyager dans le temps et on va se projeter dans le futur. Dieu sait s'il a été riche en rebondissements sur le monde des jeux vidéo, les Chinois qui serrent la vis, qui veulent que les petits Chinois jouent moins, le procès intenté par Epic Games contre Apple, etc. etc. Et en fait, vous nous présentez un livre, celui de Celia Odent, Dans le cerveau du gamer, où en fait, effectivement, on se pose la principale question: qu'est-ce qui va faire jouer le monde dans le futur?
Oui, c'est exactement ça. Alors c'est vrai, dès qu'on parle jeux vidéo, on tombe parfois même sur des clivages. Alors il y a ceux qui disent attention, il y a cette addiction aux jeux vidéo, il y en a d'autres qui donc ça va nous abrutir, on va devenir violent et tout ça, et puis d'autres qui vont vanter leur capacité d'éveil, d'apprentissage. Donc bon, faut s'y situer un peu entre les deux, et c'est sur tout cela que s'est penchée Celia Odent. Donc elle est docteur en psychologie à Paris 5. Elle est spécialisée dans ce qu'on appelle le UX, l'expérience utilisateur. Donc elle a regardé tout ça et elle connaît parfaitement les jeux vidéo parce qu'elle a travaillé chez Ubisoft, chez LucasArts ou chez Epic Games dont on parle, sur Fortnite. Donc elle regarde vraiment. Alors c'est pas la spécialiste qui va regarder le décor, la couleur, les personnages. Elle va rentrer un peu plus en profondeur pour voir un peu les émotions, l'attention, comment on retient un peu l'attention du joueur. Et donc depuis 2017 elle a quitté les éditeurs, mais justement elle a pris ce rôle de consultant, et donc elle regarde plusieurs choses, donc l'expérience utilisateur dont j'ai parlé, l'éthique aussi dans la tech, les jeux, les biais inconscients aussi qu'on peut avoir sur les jeux, et l'inclusion. Et elle s'est servie de toutes ces expériences pour les mettre dans son livre Dans le cerveau du gamer, aux éditions d'Uno.
Et donc elle nous explique comment les jeux évoluent et ce à quoi les gamers vont être confrontés lors des prochaines versions de leurs jeux préférés.
Exactement. Alors ne vous attendez pas à ce qu'elle vous dise voilà pourquoi ça va être un jeu de la Seconde Guerre mondiale ou un jeu sur les Indiens ou je sais pas quoi qui va mieux marcher qu'un autre. C'est vraiment pas ça. Elle va regarder un peu les comment on travaille sur un jeu pour la perception, l'attention, comment on retient l'attention d'un joueur. Par exemple, elle va nous dire, ça paraît tout bête ce que je vous dis, mais c'est vraiment comme ça que doivent être conçus les jeux. Il faut un but précis avec une récompense. Et puis comme ça, on y va. Et puis quand on a la récompense, eh bien on va monter d'un niveau. Donc ça, c'est comment on arrive à déjà attirer les joueurs. Leur faire aussi, et vous le voyez quand vous jouez à des jeux vidéo, c'est hyper simple aujourd'hui. Vous n'avez pas une grosse notice de 4 pages à lire avant. Vous apprenez un peu au fil du jeu. Et là, elle dit, c'est tout de la... Comment tout ça est important aussi de la façon dont on va amener les gens à jouer, et puis d'un coup ils se retrouvent devant une chose. Je parle de Fortnite là, qui est un jeu de bataille de personnages. On voit des pop-up qui s'ouvrent, qui se ferment, voilà. Et finalement c'est intuitivement qu'on va se dire, bah, tiens, si j'ouvre ça doit être pour les armes. Donc voilà, il faut qu'il y ait pas mal d'intuition. Et puis elle regarde aussi, elle dit il faut faire attention aussi aujourd'hui au côté affiliation, c'est-à-dire comment on travaille sur le réseau social. Ouais. On joue pas tout seul justement, ça c'est un élément important. Voilà, elle nous montre un peu tout ça. Comment on fait pour mieux mémoriser certaines
choses. Alors, à la fin du livre, il y a quand même tout un chapitre sur l'éthique, oui, des jeux vidéo.
Alors, c'est ça. La première partie, c'est la perception. Deuxième partie, elle va parler des méthodes de jeu, comment on les développe et tout ça. Et la troisième partie. Et en guise de conclusion, elle parle justement de cette éthique. Et elle rappelle quand même que, voilà, ces jeux vidéo, il n'y a aucune étude aujourd'hui qui prouve qu'un jeu vidéo rend quelqu'un... a rendu quelqu'un dangereux, enfin au point qu'il passe à l'acte. Par contre, elle dit voilà, il faut faire attention quand on conçoit les jeux à ce qui est le côté bon addictif, parce qu'on veut que les gens jouent, mais qu'on les désocialise pas. Elle parle un peu aux parents ou à ceux qui sont proches de joueurs, parce que ça peut être des, enfin voilà, son frère, sa sœur. Elle dit attention, le seul effet désocialisant, c'est quand vous commencez à voir que la personne change de comportement vis-à-vis de vous. Il peut jouer des heures et des heures, c'est pas gênant, mais à partir du moment où vous sentez qu'il se désocialise et tout ça, là il faut faire attention. Et justement dans la conception des jeux, il faut aussi faire attention. Donc c'est assez intéressant pour ceux qui s'intéressent à toute cette perception, et puis qu'on arrête un peu de raconter n'importe quoi parfois sur l'addiction aux jeux vidéo.
Voilà. Merci beaucoup Frédéric. Allez, on sort de notre chambre dans laquelle on a passé des heures à jouer pour partir découvrir le monde. C'est l'heure de découvrir nos livres et nos études d'ailleurs.
BFM Business, la librairie de l'écho, les livres d'ailleurs.
Bonjour Benaouda Abdelhaïm.
Bonjour.
Alors Benaouda, ça y est, c'est reparti, on recommence à écumer le monde. Alors évidemment, on commence par l'Afghanistan, le cœur de l'Asie, avec un titre assez imagé. Est-ce que l'Afghanistan est une route, un amortisseur, un pont?
Alors, c'est une publication de Ejército, qui est la revue de réflexion du ministère espagnol de la Défense, sortie 2 mois seulement avant la prise de Kaboul par le mouvement taliban. Le colonel d'infanterie Javier Maria Ruiz Arevalo prend beaucoup de champ dans cette réflexion. Il entend restituer tout le statut géopolitique et économique potentiel de ce pays. Historiquement, c'est un mur entre les empires, écrit-il. Un territoire qui forme une île entre 3 grands systèmes régionaux, Moyen-Orient, Golfe Persique, Asie centrale et Asie du Sud. C'est l'intervention militaire occidentale de 2001 qui a fait que l'île est devenue un pont, que ce soit pour la Chine dans sa stratégie dite des nouvelles routes de la soie, mais aussi pour l'Iran à partir de 2005 dans sa réorientation vers l'Est. L'officier supérieur espagnol explique que le résultat est une plus grande interdépendance de ces 3 systèmes régionaux au travers de l'Afghanistan. Et ça ne relève pas de la spéculation intellectuelle. Par exemple, le passage afghan formerait la voie la plus directe pour les oléoducs et les gazoducs entre l'Asie centrale et le Pakistan, de sorte que l'Afghanistan ne fonctionnera en fait comme le principal vecteur de développement et de coopération entre ces espaces asiatiques. Ce qui vaut pour les hydrocarbures vaut aussi pour la circulation des marchandises. La cartographie jointe est illustrée est vraiment passionnante. Mais l'auteur écrit que pour qu'advienne ce scénario d'un Afghanistan au centre de divers axes de coopération, son territoire ne doit plus servir indirectement au règlement des contentieux entre les grands voisins. Selon ce militaire, une fois ancré au cœur de l'Asie, ce pays stabilisé apporterait alors de très grands bénéfices à chacun.
Direction la Norvège, Benaouda. Comment le fonds souverain Norvégiens gèrent-ils le risque climatique ?
Alors, le 13 septembre, les Norvégiens se rendent aux urnes. Et si l'on en croit les sondages, une alternance politique de la droite vers la gauche se dessine. La question du climat apparaît comme tout à fait centrale dans les débats de campagne. Et à ce titre, l'importance des choix d'investissement du fonds souverain de la Norvège, le plus important au monde, pour rappel, 1400 milliards de dollars d'actifs, ce fonds dont l'exceptionnelle richesse est assise, il faut aussi le rappeler, sur les hydrocarbures. Un mois avant les élections, le ministère des Finances à Oslo a reçu les recommandations en la matière d'un groupe d'experts désigné par le gouvernement. Les auteurs le conçoivent comme ce fonds comme un instrument de dimension mondiale pour mettre en œuvre une ambition de la Norvège pour le climat. Il faut voir que ce fonds souverain détient en moyenne pratiquement 1,5% des sociétés cotées en bourse à travers le monde, en totalité. Ah ouais. C'est vraiment une immense force de frappe. Martin Skanke et ses collègues abordent le risque climatique comme pouvant affecter tous les secteurs de l'économie mondiale. Dès lors, ils préconisent un nouveau mandat d'investissement détaillé pour le fonds souverain qui prévoit explicitement de sortir, de se désinvestir de toute valeur cotée, quelle qu'elle soit, n'ayant pas établi un échéancier précis vers une émission nette de gaz à effet de serre. Nul, zéro. Alors, ces experts norvégiens estiment que le Fonds national doit influencer le comportement des entreprises internationales en les amenant à affiner la façon dont elles rapportent, une à une, leur prise en compte du risque climatique. En suivant ce rapport, ces auteurs estiment que le Fonds serait en mesure d'appuyer les projets rentables dans la transition vers l'économie à bas carbone. Et on est donc bien là dans le recours à un outil, ce Fonds souverain, de politique et de relations internationales.
Incroyable. Comment on pourrait penser que la politique d'achat d'un fonds souverain puisse faire l'objet d'un débat dans une campagne électorale ? C'est absolument incroyable. Les instruments scientifiques dans la liste de contrôle des exportations des États-Unis, Benahouda. De quoi s'agit-il ?
Cela concerne au premier chef la Chine. C'est une étude sortie dans une revue académique chinoise sur les questions technologiques, une publication à comité de lecture. Elle a été repérée par le South China Morning Post, le quotidien hongkongais. Et nous en avons lu aussi un condensé de ce document. On y apprend que les instruments scientifiques, essentiellement des outils d'analyse, de mesures électroniques, d'optique, en laboratoire, constituent 42% des éléments de la liste américaine de restrictions à l'exportation. Cela vise bien entendu la Chine. Les auteurs expliquent avoir eu recours à une méthode d'intelligence artificielle pour mieux saisir la sophistication extrême de cette liste américaine et la stratégie sous-jacente. Il y a une douzaine de catégories répertoriées avec un éventail de contrôles plus ou moins large, y compris pour des équipements a priori anodins, mais perçus à Washington comme pouvant être utilisés à des fins non civiles. Les restrictions les moins lourdes concernent les instruments de diagnostic médical et ceux de détection atmosphérique. Pour le reste, le travail scientifique en Chine risque d'en être entravé par ces restrictions, parce que beaucoup de ces équipements proviennent des États-Unis et qu'aucun des fournisseurs chinois ne se classe encore parmi les 20 premiers mondiaux. Le professeur Chen Fang et ses co-auteurs évoquent une situation grave qui exige de repenser tout le système d'approvisionnement, resserrer la coopération avec les fournisseurs européens et russes notamment, et puis pousser la production nationale. Sauf qu'au sein même des laboratoires chinois, il resterait à surmonter de fortes réticences parce que la confiance technique pour certains instruments clés de précision fabriqués en Chine se révèle moindre auprès des scientifiques chinois. La montée en gamme est donc dans ce domaine encore à effectuer en Chine.
Merci beaucoup Benahouda, passionnant comme toujours. Allez, c'est l'heure de nos ultimes choix.
BFM Business, la librairie de l'écho, les livres de la dernière minute.
Jean-Marc Daniel, quelle est votre ultime sélection pour aujourd'hui ?
Alors ma recommandation, c'est d'acheter le dernier numéro de Challenge, qui est un magazine que l'on connaît bien, et qui consacre son numéro de rentrée à un vaste sondage fait auprès de 10 000 personnes sur justement l'état d'esprit des Français, et donc avec un commentaire de Pierre Rosanvallon sur les angoisses, avec un commentaire aussi d'Emmanuel Macron. Mais alors ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve un peu ce que dit Pierre Rosanvallon, mais on a plutôt une vision assez positive de ce que pensent les Français. Les Français sont moins pessimistes, se sentent moins méprisés, se sentent moins agressés que ce que raconte Pierre Rosanvallon. Donc c'est un travail de fond mais un travail qui reste quand même un travail de News Magazine, mais voilà, ça mérite le détour.
Pour compléter le livre de Pierre Rosanballon, Les épreuves de la vie. Christian Chavagneux.
Un ouvrage un peu plus technique, puisque c'est le dernier numéro de la revue d'économie financière consacrée à l'avenir de l'intermédiation financière. Absolument. Là, c'est vraiment, il y a plein de papiers très, très originaux, plein de contributions originales. C'est assez technique, hein, la lecture, mais le rôle des banques, le rôle des marchés financiers. Il y a un papier, moi, qui m'a beaucoup intéressé sur le fait que la concentration du système bancaire français est beaucoup plus forte que ce que ne le disent les statistiques officielles. Je vous laisse découvrir pourquoi. C'est vraiment un excellent numéro.
Allez, moi je termine avec... c'est toujours la même chose, hein, chaque rentrée, le flot de livres sur la géopolitique. Alors, il y a l'excellent Dessous des cartes, hein, vous connaissez la très bonne émission sur Arte, Le Monde, mise à nu, l'Atlas de Émilie Aubry et Franck Tétard. Et puis vous avez l'incontournable rapport Ramsès de l'IFRI, 40e édition de cette somme qui balaie tous les sujets de la géopolitique et de la stratégie. Et puis l'année stratégique 2022, l'analyse des enjeux internationaux par Pascal Boniface et les équipes de l'IFRI chez Armand Collin. Avec tout ça, vous êtes parés pour tout savoir des grands enjeux géopolitiques de l'année. C'est la fin de cette librairie de l'écho. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, évidemment, bonne lecture.